salut Daniel. Écoute, c'est Jacques du Beaujolais, j'écoute ton émission là sur les légionnaires. Et comment tu dis ? Eh ben on n'est pas senti le cul des ronds, ça. Allez, bisous à tous.
Oui, mais il me vient un souvenir. C'est Jean-Yann qui avait dit, en parlant de la Légion d'honneur, que la Légion d'honneur, c'était comme les hémorroïdes, que n'importe quel trou du cul pouvait l'avoir. Et il s'était fait taper dessus, et il s'était fait taper sur les doigts. Il était sur une radio périphérique, je ne sais plus si RTL ou Europe. Voilà.
Arlette Baraille, fille de Paul Boudon, résistant déporté, commandeur de la Légion d'honneur. Après votre point de vue sur la Légion d'honneur, voici celui d'une ancienne élève des maisons d'éducation. Mes amies si nombreuses orphelines de jeunes capitaines tombées au champ d'honneur, bataille de France, Monte Cassino, Indochine, camp de concentration, etc., auraient préféré garder leur père plutôt que de recevoir en leur nom sur un coussin cette croix précieuse. Et je suis fière de vous en parler ce 21 avril. D'autre part, j'aime la rudologie. Votre émission m'instruit parfois sur cette discipline. C'est comme la prose de Monsieur Jourdain. Beaucoup d'auditeurs la pratiquent sans le savoir. Mais moi, j'aime. Je m'instruis.
Oui, moi j'appelle pour dire que ça fait 58 ans que je fais tout ce que je peux pour pas l'avoir à la Légion d'honneur et que rien que pour ça, il pourrait me la donner. Salut!
Je viens d'écouter votre émission concernant Monsieur Juppé. Eh bien, voyez-vous, une émission comme ça, je l'apprécie beaucoup. J'espère que vous prendrez des exemples également sur des gens de gauche. Et si vous changez d'orientation dans votre émission, il est certain que quand vous nous passiez certains bruitages de relations sexuelles, moi je trouvais pas ça très édifiant. Surtout actuellement, où les mœurs, je m'excuse de dire comme ça, mais sont pas très reluisantes. Et peut-être que vous, journaliste qui êtes quand même très estimé, vous pouvez quand même élever un petit peu le niveau de intellectuel. Et ça serait vraiment très très bien. Merci monsieur Mermet.
Merci madame l'auditrice, et je vous promets qu'aujourd'hui par exemple, il n'y aura pas de ces épouvantables bruitages de relations sexuelles dans la base, j'y suis. Mais quel rôle vous avez raison, comment est-ce que c'est possible que ça n'ait jamais existé, des bruitages de relations sexuelles. Pourquoi n'y en aura-t-il pas aujourd'hui dans l'émission? C'est qu'on va parler de choses assez graves et en même temps assez grotesque, mais somme toute passionnante. Il s'agit d'une polémique autour d'un film, d'un documentaire qui s'appelle Le cauchemar de Darwin. Vous avez entendu parler de ce film, vous l'avez vu, vous avez été 450 000 à le voir en France, et ce soir à 20h40, il est présenté sur la chaîne Arte, suivi d'un débat. Alors, ben voilà, tous ceux qui ne l'ont pas vu pourront le voir ce soir sur Arte. Quelle est cette polémique? Cette polémique nous a semblé passionnante. Le film de Hubert Sopper qu'on va entendre dans cette émission a eu un succès fou en France, mais à travers le monde, présenté dans 50 pays, 1 million, je ne sais combien de spectateurs. Unanimité, et on peut dire, emballement unanime de tous derrière ce film. Et puis, soudain, en décembre dernier, paraît un long article dans la prestigieuse revue Les Temps Modernes, signé d'un certain François Garçon, qui, intitulé, je vais vous le dire tout de suite, Le cauchemar de Darwin, allégorie ou mystification, et qui, sur 30 pages, s'acharne et réussit d'ailleurs à démolir le film. Réussit dans une certaine mesure, en tous les cas réussit auprès d'un certain nombre de médias et de journalistes en particulier qui n'hésitent pas à opérer un tête-à-queue radical dans le sens du vent et qui se livrent à un contre-emballement et qui se mettent à dénigrer ce qu'ils avaient quelque temps auparavant encensé. C'est la figure classique dénoncée depuis un certain temps par Jean-François Kahn. C'est la règle des 3 L. Je lèche, je lâche, je lynche. Alors, nous, ça nous a passionné, cette histoire. On a voulu rencontrer l'auteur du film, ainsi qu'un journaliste du Canard Enchaîné, Jean-Luc Porquet, qui, lui, n'a pas changé d'opinion, et qui explique dans le Canard de cette semaine les ressorts, selon lui, de cette affaire. Il faut rappeler en quelques mots, pour ceux qui n'auraient pas vu encore le film, que ça se passe à Mwanza. C'est une ville en bordure du lac Victoria, qui est le plus grand lac tropical du monde, au cœur de l'Afrique. Dans les années 60, un poisson, la perche du Nil, est implantée dans ce lac. Cette perche du Nil est un prédateur et est implantée à titre d'expérience. Et depuis cette période, pratiquement toutes les espèces de poissons ont disparu, et puisque ce poisson, la perche du Nil, est un poisson fort vorace. Depuis, une industrie s'est développée dans cette région, et sur le pourtour du lac Victoria, sur la perche du Nil, et cette pêche a développé donc une industrie de conditionnement et d'exportation de ce poisson. Des pêcheurs, des pilotes russes, des industriels, des commissaires européens, des prostituées sont les personnages qu'on rencontre dans le film de Hubert Sopper. Et c'est une vision d'un effet, disons, de la mondialisation libérale qui est dénoncée dans ce film, où l'on voit produits de la pêche transportés par avion à bord de lourds cargos d'ex-URSS, fabriqués dans l'ex-URSS, cargos qui reviennent vers Mwanza, vers la région des Grands Lacs, certainement pas à vide, nous dit le réalisateur. On évoque donc un possible trafic d'armes. Vous vous souvenez de l'affiche du film très célèbre avec ces trois images, un poisson, puis un poisson, seulement l'arête, la carcasse du poisson, et ensuite la Kalachnikov. On passe du poisson à la carcasse, à la Kalachnikov. Vous souvenez de cette image. Voilà ce qu'il faut avoir présent à l'esprit avant de rentrer dans l'émission d'aujourd'hui. Mais auparavant, quelques messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Écoute, je t'appelle parce que les facteurs de Plougastel d'Aoulas, cette belle presqu'île, sont en grève depuis maintenant 2 jours, et je voulais t'appeler parce que La Poste, ce grand service public, met en place une distribution parallèle avec l'embauche d'intérimaires, de cadres, etc. Et ces facteurs qui gagnent 1000 euros par mois, se battent pour avoir un emploi stable. Ils sont précaires, CDD depuis 3 ans. Et ce qu'ils réclament, c'est simplement un CDI et le droit à vivre dignement comme les autres. Voilà. Et en face de nous, nous avons un service public, la Poste, et qui met en place des huissiers, des constats d'huissiers, des assignations au tribunal, etc., etc., avec des distributions parallèles et tout ça, avec l'assentiment du maire UMP de cette belle presqu'île de Plougastel d'Aoulas, le pays de la fraise. Salut Daniel.
Bonjour, c'est Yves de Chaland. J'appelle pour vous parler de notre soirée repère des amis de la Bastille. J'y suis. La troisième soirée donc que nous organisons le jeudi 27 avril à 20h30 au café La Pitchouli, place des Marronniers à Chaland. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre pour parler de l'actualité, n'hésitez pas ce jeudi-là, ou si vous ne pouvez pas celui-ci, on recommencera chaque dernier jeudi de chaque mois. Alors à bientôt, au revoir.
Bonjour à tous les mauvais sujets de là-bas, si j'y suis. Alors j'ai entendu une auditrice dire, reprendre une phrase de Coluche, les hommes sont tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors en fait, ça vient d'un roman d'Orwell, George Orwell, qui s'appelle La ferme des animaux, et là-dedans, le chef des animaux, le cochon Napoléon, disait, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et il se trouve que, je crois que Napoléon est une des idoles d'un certain Dominique de Villepin. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on continue.
Salut Daniel, salut à tous les auditeurs. C'est juste pour rappeler que le mardi 25 avril à 20h30, eh bien, il y a le repère de Là-bas si j'y suis à Morlaix, au café Le Tempo. Donc, bah, venez tous. Et puis, allez, Kenavo, yes, yes.
Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis prof en lycée et j'ai entendu par les infos d'Inter, Monsieur Sarkozy, encore lui, hein, qui a expliqué devant ses sympathisants, ses militants, que si les jeunes, les gens, etc., n'aimaient pas la France, il fallait qu'ils partent. Hein. La France, tu l'aimes ou tu la laisses, hein, disait Monsieur de Villiers. Eh ben, bon, c'est de la démagogie, on est d'accord là-dessus, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le vrai souci, hein, c'est qu'il s'est pas rendu compte de la gaffe qu'il vient de commettre, parce que sur le terrain, moi, des petits gamins de banlieue qui vivent dans la précarité, qui sont paumés dans leur tête, hein, faut bien le voir comme ça, ils ont pris ça en pleine face, surtout que après les manifs CPE, ils avaient un peu de conscience civique, hein, les gamins. Donc ils sont devenus plus sensibles à ces choses-là. Et ben maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et ben, moi je suis inquiet. Hein. C'est un très mauvais signal, un signal très négatif, de la stigmatisation à des vues démagogiques, populistes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ciao.
Oui, si certains n'aiment pas la France, qu'ils la quittent, a dit Sarkozy ce week-end. Aussitôt De Villiers proteste, il a piqué mon slogan. C'est même pas vrai. Ce slogan, on le doit aux fascistes états-uniens qui proclamaient, il y a plus de 50 ans déjà, à propos de leur patrie, « Love it or leave it, tu l'aimes ou tu te tires ?» Comme dans le film « L'affaire est dans le sac » où un client, façon Action française, exigeait un béret français, j'espérais trouver au moins chez Sarkozy et De Villiers des slogans français. Même pas. Tout fout le camp. Quelle déception. Je vous appelle du 14e arrondissement à Paris. Salut.
Allô, bonjour. En réponse naturelle à la phrase imbécile de M. Sarkozy, je dirais que s'il n'aime pas les Français qui se battent pour la République et la démocratie, qu'il s'en aille. On peut, nous, la France d'en bas, les populeux accrochés aux idéaux républicains, décider de nettoyer au Karcher tous ces politiciens véreux qui nous vendent au plus offrant. Qu'ils relisent la Constitution. C'est écrit dedans, si le peuple se rend compte que ses dirigeants trahissent la République et la démocratie, il doit descendre le crier dans la rue.
Bonjour, c'est Yveline de Langrelais. C'est un message pour le Café Repère de Ploubalet qui aura lieu le mardi 25 avril à 20h, toujours chez Marie et Pierrot, au Penalty. Donc à 20h, mardi 25. On vous attend. À bientôt.
Oui, bonjour, on est le 21 avril, on a plein de mauvaises nouvelles en ce moment, on nous rappelle des trucs d'il y a 4 ans, mais moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, parce que j'habite à Charmont-sous-Barbise dans l'Aube, et ma petite hirondelle vient de se poser sur mon fil, devant chez moi, elle m'a dit qu'elle était là, et elle va pouvoir retrouver son nid tranquillement dans mon sous-sol, parce que je n'ai rien détruit. Parce qu'il paraît que c'est interdit de détruire les nids d'hirondelles, et puis je suis vachement content qu'elles soient revenues. Voilà, c'était un message de Jean de Charmont-sous-Barbuise. Salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Hubert Sepeur et Jean-Luc Porquet, le cauchemar de Darwin.
Flight number 2, arriving from
Из них все неверно и капризно, в небе путь никто их не вернет. Нынче праздник, завтра будет видно. Незаметно,
Toutes les usines de perche de Nil marchent bien. Le seul problème, à présent, c'est que le marché n'est pas tellement favorable pour nous en ce moment. Il y en a trop. Il y a trop de perches de Nil en Europe en ce moment. Mwanza seul produit environ 500 tonnes par jour. Et c'est un minimum. Ça fait beaucoup d'argent. Combien de personnes peut-on nourrir avec 500 tonnes? Combien? Combien de gens?
Ah, that is a difficult question.
Vous posez une question difficile.
Well, this is for 500 tons. Oh, I don't have any idea how many people can eat.
J'en ai pas la moindre idée.
Yes, but even Russian pilots are busy also. Russian pilots every day there is almost two flights. They came every day almost, so they got job also.
Même les pilotes russes ont du travail. Il y a presque deux vols par jour. Ils viennent tous les jours. L'aéroport est occupé. Quand ils viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils apportent ici? Quand ils viennent ici? Rien. Ils viennent à vide.
Right now, the government is really sending a message to the people.
Le gouvernement envoie un message aux gens.
We have a blessing.
Nous avons une bénédiction qu'il ne faut pas gâcher. Nous avons du poisson, ce qui veut dire du travail, de l'argent, de la nourriture. Aussi, on doit... Non, ne filmez pas ça, pas ce camion. C'est le camion qui attend pour venir chercher des carcasses de poisson. Des carcasses de poisson pour la consommation humaine. Il vient prendre les carcasses.
Vous ne mangerez plus jamais de perche du Nil. Voilà, ce soir sur Arte à 20h40, diffusion du cauchemar de Darwin, le cauchemar de Darwin, et une page entière de Courrier International, mais d'autres journaux aussi, a été acheté par Arte. Arte, vivons curieux, pour nous dire, vous ne mangerez plus jamais de perche du Nil, après avoir vu ce film. Ce soir, ceux qui verront ce film succéderont aux 450 000 Français qui ont déjà vu ce film. Plus d'un million à travers le monde. Le film a été montré dans une cinquantaine de pays. Et a été couronné du César 2006 du meilleur premier film, a été nominé aux Oscars d'Hollywood. Enfin bon, on sait que Le cauchemar de Darwin a été et est un succès considérable. Alors avec nous, pour parler de ce film, et pas seulement de ce film, mais de la polémique qu'il y a autour de ce film, et bien il y a l'auteur du film, qui est Hubert Sauper. Bonjour. Et puis un confrère du Canard Enchaîné qui s'appelle Jean-Luc Porquet et qui est l'auteur d'un papier publié cette semaine dans le Canard. Un vrai cauchemar, c'est-à-dire on va voir comment le cauchemar de Darwin est devenu le cauchemar de l'auteur. Pourquoi cette colère, Hubert, devant cette page entière « Vous ne mangerez plus jamais de perche du Nil » ?
Parce que je trouve que c'est la réduction la plus bête qu'on peut faire d'un film comme Le cauchemar de Darwin. Parce que bon, c'est un film sur un thème si complexe que la globalisation, qui est une espèce d'histoire relationnelle entre 6 milliards de personnes. Et moi, j'ai essayé de faire un point sur un seul lieu, c'est-à-dire une petite ville en Afrique qui s'appelle Mwanza, et à travers d'une seule économie, Nord-Sud, donc celle de l'export de poissons et de l'import des armes. C'est-à-dire que Le cauchemar de Darwin, c'est pas montrer quelque chose de terrible, mais c'est mettre certaines réalités en lien. C'est-à-dire que les réalités qu'on connaît, c'est le sida en Afrique, c'est la famine, c'est l'exploitation des ressources naturelles, c'est le miracle économique que certains gens prétendent. Et je mets tout ça en relation, et le cocktail devient est devenu ce film qui s'appelle Le cauchemar de Darwin, donc qui est un cauchemar vécu pour les spectateurs.
On va voir comment c'est devenu aussi un peu votre cauchemar à vous, à travers cette polémique. Mais est-ce qu'on peut faire un synopsis ou un résumé du film pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Il y a 450 000 Français qui l'ont vu, ça fait quand même beaucoup qui ne l'ont pas vu. Mmh. Est-ce qu'on peut résumer un peu le synopsis ?
Je ne sais pas combien de gens nous écoutent.
Autant.
Peut-être plus que spectateurs.
Autant, exactement autant.
Et voilà, résumé, c'est très simple. Hein. Moi, je me suis dit, la logique de ce qu'on appelle peut-être le nouvel ordre mondial est répétitif. C'est-à-dire que nous, dans les pays industrialisés, pays riches, on a besoin énormément de ressources et de main-d'œuvre. Le main-d'œuvre, parfois, qui se passe d'ailleurs pas ici, mais qui se passe ailleurs, dans les pays soi-disant pauvres. Et je cherchais à faire à retracer un exemple, un seul exemple. Je cherchais quel produit que je pourrais retracer. Ça aurait pu être des bananes ou des diamants ou du pétrole. Le pétrole, c'est le plus évident, que ça détruit vraiment les gens sur place, à côté de la source. Et j'ai trouvé cette ressource de ce poisson, ce fameux poisson qui s'appelle la perche du Nil, qui était introduit à un moment donné au lac Victoria et qui est devenu un énorme produit qui fait des milliards de dollars maintenant. Ça fait 10 ans que je connais cette région de la Terre très bien. J'ai fait un autre film sur les réfugiés du Congo, donc sur les réfugiés rwandais au Congo qui s'appelle Loin du Rwanda. Quand j'ai fait ce film donc à Kisangani, j'ai utilisé les avions de l'ONU qui transportent les aides humanitaires pour les pauvres réfugiés qui étaient affamés dans le Congo. Et donc c'était le seul moyen de transport. Et j'étais à bord de ces avions. C'était des avions ex-soviétiques. C'était des avions ukrainiens. Et à l'époque, en 97, je suis devenu très vite ami avec l'équipage. On a bu beaucoup de vodka et ils m'ont dit très tôt qu'ils transportaient pas seulement les aides humanitaires, mais aussi des kalachnikovs et tout ce qu'il faut pour la guerre. Qui était un détail intéressant pour moi comme naïf européen. Et plus tard, j'ai compris que les mêmes avions vont aussi vers le nord avec un autre type de nourriture, donc la perche du Nil. Donc pour moi, ces avions-là sont devenus une espèce de quintessence de la folie de notre époque, je dirais. Encore une fois, c'est juste un exemple parmi des milliers d'exemples, mais c'est très visible, soi-disant. C'est-à-dire que si on parle de la globalisation à Wall Street, on voit des écrans d'ordinateurs, on voit des gens avec costumes cravates, mais on voit pas d'une si grande évidence qu'en Afrique, par exemple, là où le capital est créé, là où la nourriture pousse, qui est exportée, là où les gens trouvent du pétrole dans la mer, dans la terre, et là où l'origine des ressources, c'est là où on voit le vrai mécanisme du capitalisme mondial. En anglais, on dit le ground zero du capital. J'ai passé 4 ans à faire ce film, Le Cauchemar de Darwin, et une partie de mon travail, c'est l'investigation aussi. Mais c'est, relativement à tout le travail que ça représente, une petite partie. C'est-à-dire, c'est pas très difficile de trouver des usines de poissons, c'est pas très difficile de savoir que les avions ne viennent pas vite en Afrique, mais ils viennent toujours avec du matériel, ça peut être des téléviseurs ou des frigos, mais pour la plupart dans cette région de la Terre, donc les Grands Lacs, la région où il y a le plus de guerres.
Ce qu'on a appelé la guerre des Grands Lacs, effectivement, a fait autour de 3 millions de morts.
3 ou 4 millions de morts.
Et ça continue,
on peut pas compter les morts indirectes ou les gens qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus d'espoir ou qui n'ont plus de jambes ou qui ont perdu leurs enfants ou leurs parents. Bref, c'est une catastrophe si grande et nous sommes tous d'accord, je pense chacun qui peut réfléchir, que les bombes et les kalachnikovs qui sont utilisés dans cette guerre-là ne poussent pas entre les bananiers. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un les amène. Et je peux aussi vous dire que c'est pas Air France qui les amène, c'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont des compagnies aériennes privées qu'on voit aussi dans le cauchemar de Darwin, et notamment les équipages, et qui le disent d'ailleurs dans le film. Voilà, c'est ça notre travail. Alors, pourquoi, donc, on me demande souvent pourquoi tu montres pas les armes dans les avions, je peux vous dire.
On va venir à ces reproches et à ces polémiques, voilà. Et à ces critiques, mais...
Juste un truc, c'est la représentation de la réalité. Il y a des gens qui me disent parfois, mais est-ce que c'est vraiment comme ça, cette ville-là, comme on voit dans le film? Et je dis toujours, non, c'est pas comme ça, c'est mon film. Et pourquoi? Parce que si on vient comme touriste ou même journaliste, comme le monsieur du Monde d'ailleurs qui a fait une contre-enquête, qui vient 3 jours, si on arrive là, on ne marche pas comme par hasard sur les carcasses de poissons. On ne rencontre pas par hasard des gens qui ont perdu 3/4 de leur famille du sida. On trouve ce type de réalité si on les cherche.
Moi, c'est comme quelqu'un qui fait un reportage sur les SDF à Paris, et on lui dirait, voilà. Attendez mon vieux, vous ne montrez que les SDF à Paris. Allez dans le 16e.
Ce que j'ai essayé de trouver aussi dans ce film, c'est montrer une réalité de quelqu'un qui dit, par exemple, le dirigeant de l'usine qui dit, c'est génial, on crée des emplois, tout le monde est content, tout va bien. Et après, il y a le mais, à 300 km plus loin, dans le lac, il y a des campements, des milliers de personnes, c'est eux qui cherchent tous les matins ce poisson, c'est eux qui ont jusqu'à 90% ou 70% de taux d'ici là, c'était une recherche qui vient de sortir là. Et ces gens-là n'ont pas de voix, on les voit pas, sauf si on les cherche. Donc avec le cauchemar de Darwin, je les ai cherchés et je les balançais devant la gueule de tout le monde, en gros. Voilà,
est-ce que vous vous attendiez à un tel succès?
C'était un tel grand projet pour moi et je savais que ça va faire son chemin. Il transforme ce que nous savons en quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il transforme l'information. C'est-à-dire que le cinéma ou la poésie du cinéma, ironiquement, et l'art du cinéma est capable de transformer une information brute en conscience. Le film, je pense, est un film, si on le voit intelligemment, un film sur la responsabilité collective et pas sur la culpabilité collective. La fin du film, c'est l'aviateur chef russe qui dit, voilà mon boulot, c'est transporter les Kalachnikovs et des bombes en Afrique et de revenir avec la nourriture en Europe. Il est là, assis, avec un énorme regret, avec une énorme lourdeur de ce qu'il dit, et en même temps il dit j'aimerais bien que tous les enfants dans le monde soient heureux, mais je ne sais pas comment faire. Nous tous sommes co-auteurs d'un dilemme global qui est en train de, c'est mon avis, ce qui est en train de nous tuer.
Jean-Luc Porquet.
Moi j'avais fait un article donc à l'époque de la sortie du film, et j'ai reçu plein de lettres après de lecteurs qui étaient allés le voir et qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois quand même la réaction, c'était ça. Quand on sort du film, c'est un film bouleversant, c'est un film suffocant, on sort de la désespérance en disant, mais c'est encore pire que ce qu'on imaginait. On voit des gens, enfin, on voit des trucs à la fois beaux, terribles et beaux, et les courriers qu'on reçoit, c'est des gens qui... Dites-moi ce que je peux faire. Qu'il faut aller voir une ONG, laquelle, pourquoi faire? Est-ce qu'il faut boycotter la perche du Nil, faire autre chose? Je crois que c'était la
ce qui a première frappé, réaction. Ouais, ce qui a frappé tout le monde avec ce film, c'est que il y a eu beaucoup de travail sur ces phénomènes de la mondialisation libérale et de ses dégâts aussi bien environnementaux que sociaux à travers le monde. Sauf que tout ce qui avait été fait, ou presque jusque-là, dans toute un tas de modes d'expression, du reportage, du film documentaire, etc., est toujours, presque toujours, limité à un cercle d'initiés, de travailleurs humanitaires, de gens qui sont concernés par le sujet, et puis on n'arrive jamais à sortir de ce cercle, et donc c'est parfait, tant que ça sort pas du cercle, c'est parfait. Sauf qu'avec le cauchemar de Darwin, la force d'expression de Soper, le film est sorti. Il a fait un trou dans le blindage, et ouf, c'est sorti, ça a touché un public plus vaste. Alors avec des moyens, effectivement, d'expression fort, poétique, un montage extrêmement bien fait, qui est allé chercher l'émotion chez les spectateurs, en espérant que l'émotion entraînerait la réflexion et l'action.
Évidemment, les gens, dans les débats après le film, ils disent, dites-nous, Hubert, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous venez de nous montrer tous ces problèmes-là. Et je dis toujours, je ne suis pas prophète. Hein. Si j'étais prophète, je ne ferais pas de film. Mais je peux vous dire, une chose que je souhaite, c'est qu'on commence une vraie réflexion sur les vraies questions de notre époque. Parce que combien de gens dans notre société se posent ce type de questions essentielles? Qu'est-ce qu'on fout sur notre terre? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas nous foutre en l'air? C'est tout simple. Hein. Mais ça reste l'angoisse de quelques chercheurs, de quelques artistes, de quelques intellectuels, mais ça n'est pas encore l'angoisse, soi-disant, de la population. Et ce type de film est peu forcé de se poser des questions. History.
thinking I'm a Jew, ethnic brother from Africa. Basically speaking, I'm a Jew, ethnic brother from Africa. Enslaved ships, we were stuffed and cuffed, and then sold as if yet not enough. The next move was to remove his mentality, changed his name from Kunta Kinte to Toby. Made a slave to smell the breath of death, snatched from Africa like a baby from a breast. Mothers were molested, fathers were invested. Not all we want to be is respected. Africa's the school of thought, culture should be sought and taught. Lose control and tell your soul, but it cannot be bought. Racism and hate is just a weight that never lightens. Pain is just a noose that tightens and tightens. They call me a colony, tell me it's a felony. Talk about democracy, but honestly, hypocrisy, misogyny, it's all just a travesty of justice. Live life on your own, you grown, so don't be a puppet. Basically speaking, I'm a true ethnic brother from Africa. Basically speaking, I'm a true ethnic brother from Africa.
Alors voilà exposé par Hubert Seppert et Jean-Luc Porquet l'état d'esprit de ce film, l'intention, la démarche, lorsque soudain, tout allait bien donc, lorsque soudain, un article est publié dans la prestigieuse revue Les Temps Modernes, créée par Jean-Paul Sartre, il faut le rappeler, et donc Prestige, et un long article d'une trentaine de pages, signé d'un certain François Garçon, s'en prend au film, et avec un titre qui dit un peu toute l'intention du papier, Le cauchemar de Darwin, allégorie ou mystification. Et l'auteur, François Garçon, point par point, essaye de démonte le film, dans lequel il voit quelque chose qui a été fait pour séduire les altermondialistes, qui ne cache pas sa détestation des altermondialistes d'entrée de jeu. Il est historien, il faut le rappeler, historien même du cinéma, il donne des cours sur le cinéma, ce monsieur François Garçon, et il démonte sur 30 pages le film. Et là, presque aussitôt, comme il y a eu un engouement, il y a un contre-engouement, il y a un certain nombre de journalistes, de journaux, qui opèrent de véritables tête-à-queue, hop, qui se retournent complètement, qui disent « Ah mais oui, c'est vrai, c'est une imposture, c'est une mystification, c'est un film misérabiliste, le catastrophisme culpabilisateur du cauchemar de Darwin, bref, le cauchemar de Darwin devient le cauchemar de l'auteur du Berceau, qui sourit d'ailleurs, parce que ça va mieux maintenant.
» Non, mais ça me fait rire en même temps parce que, de toute manière, il est sorti dans 50 pays en salle et ce phénomène de ce débat, c'est uniquement un phénomène français et actuel. Donc, la polémique n'existe que ici. Elle s'attaque à comment on voit la mondialisation, comment on voit le monde. C'est tout simple. Hein. Mon film dérange tellement et malheureusement, il était nominé aux Oscars et aux Césars et machin. Et là, il a atteint un niveau où il était trop visible. Et du coup, il est devenu aussi, de son propos, trop dangereux pour certains points de vue. Et mon point de vue, il est très clair. Hein. Mon point de vue, c'est que l'aide humanitaire et l'aide au développement pour ce type de pays, mais c'est pas que la Tanzanie, c'est vous allez où vous voulez en Afrique centrale, c'est exactement la même histoire, et moi je connais très bien, c'est que c'est une aide à l'exploitation, en gros, hein. C'est une aide, si vous voulez, l'Union européenne investit dans une usine de poissons pour aider la Tanzanie, mais en fait, tout le poisson est exporté, et l'argent qui est créé, d'ailleurs, la Banque mondiale dit, voilà, c'est super, ça fait 300 millions de dollars par an pour la Tanzanie, mais les 300 millions de dollars, ils vont en Tanzanie, mais ça retourne tout de suite en Europe, sur les banques en Suisse, ou alors le ministre s'achète des Mercedes-Benz, donc l'argent ne vient pas au profit de la population. Une certaine partie de la population, certes, ont un travail dans l'usine de poissons, mais c'est tellement minuscule par rapport à tous ces centaines de milliers de gens, par exemple.
Ça, il faut dire que c'est un des arguments principaux de François Garçon, de dire, regardez, finalement, il n'y a pas que du mauvais dans cette histoire, il voilà. y a des tas de gens qui en profitent, ouais. il y a presque une classe moyenne.
Jean-Luc Porquet, essayons de voir les choses. C'est, je disais, beaucoup de journalistes et de publications ont fait un tête-à-queue médiatique, sauf vous. Vous aviez défendu le film dans un premier temps, et lorsque la polémique s'est installée, vous avez persisté et signé en publiant un papier où vous essayez de démonter, de comprendre pourquoi cette polémique et qui est à l'origine de cette polémique.
À l'origine, c'est donc François Garçon, mais j'essaie de comprendre, puisque lui, il, dans son article, il critique les méthodes de travail du Berthopper, j'essaie de regarder quelles étaient les siennes de méthodes de travail, et c'est simple, c'est un historien qui est basé à Paris, il a fait une enquête à Rungis, il est allé voir le prix de la perche vendue en gros à Rungis, et il a compulsé les rapports de l'OCDE. Et il le dit tout à fait sans problème, il le reconnaît, je suis interviewé, il m'a dit, mais vous savez, ça, j'ai fait ça selon un protocole tout à fait scientifique, donc il se veut pur scientifique, mais il est surtout pas allé à Mwanza en Tanzanie enquêter sur place, donc c'est une sorte de contre-enquête. Alors, déjà ça m'a paru curieux que l'ensemble de la presse tout à coup tourne sa veste et fasse confiance à quelqu'un qui a mené une contre-enquête en fouillant dans des rapports sur internet et en allant à Rungis. Je sais pas, moi ça me paraît en tant que journaliste un peu faible quoi. Et après quand on regarde ses arguments, parce qu'en gros il a quatre arguments quoi. Il a l'argument sur le fait que le trafic d'armes, il n'y a aucune preuve
qui est apportée
dans le film. L'argument que finalement beaucoup de gens mangent de la perche autour du lac et donc la perche n'est pas exportée.
On l'exporte pas tant que ça.
L'argument comme quoi ça crée une sorte de classe moyenne, donc finalement ça apporte plus de bénéfices qu'autre chose.
Et puis l'histoire du dépeçage des carcasses. On va prendre les arguments de François Garçon. Si vous voulez, et puis vous allez voir, vous allez nous dire ce que vous en pensez, comment vous les démontez à votre tour, ou bien si vous les balayez d'un revers de main. Donc effectivement, il dit que concernant les fameuses carcasses après le dépeçage, les carcasses ne seraient pas destinées à la population, mais à la nourriture d'animaux, aux porcs et aux poulets. Alors que vous, dans votre film, vous dites, voyez, les restes, c'est bon pour les Africains, et la bonne partie va sur les tables des occidentales, lui dit pas du tout. Là, c'est un premier plan. Il y a deux, trois points comme ça sur lesquels il insiste beaucoup.
Moi, dans mon film, je dis rien parce que je laisse parler des gens. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est vraiment une chose, je trouve, criminelle parce que c'est une scène clé, effectivement, du film où on voit un monsieur expliquer comment on découpe les carcasses et les têtes et on voit des énormes fritures avec des milliers de têtes de cette perche du Nil qui frite et avec la fumée. C'est une espèce de scène, effectivement, infernale. Et c'est une usine pour recycler ce qui reste en chair de la perche du Nil pour la population locale. Et je peux vous dire, c'est criminel de nier ça, parce que c'est vraiment une espèce de négationnisme très 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 dangereux, je trouve.
Un autre argument, Hubert Sepper, dans le fameux papier de François Garçon dans les temps modernes, je le rappelle, c'est de dire que cette activité contribue à l'enrichissement local et non à son appauvrissement. Ce que vous dites dans votre film, ce que vous montrez, parce qu'on vous entend, vous ne parlez pas vous-même, à part pour poser des questions de temps en temps, mais contrairement à ce qu'il croit, il n'y a pas de voix off dans le film, il y a des textes qui interviennent de temps en temps. En tout cas, ce que vous démontrez, vous, par l'image, c'est cette activité, en fait, entraîne l'appauvrissement général de la région et de la population, même s'il y a des emplois qui sont créés, et même s'il y a, effectivement, un certain enrichissement pour certains. Il y a un enrichissement moyen, peut-être, pour certains, mais les inégalités, évidemment, sont particulièrement violentes, et c'est pas une exclusivité de cette ville de Mwanza en Tanzanie, on retrouve ça partout. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique?
Non, mais vous savez que dans toutes les économies du monde, il y a toujours une partie de la population qui en profite, notamment dans toutes les industries, dans les pays les plus pauvres, il y a toujours une élite bourgeoise qui devient d'ailleurs très riche. Ce sont des gens qui investissent dans les hôtels à Toronto et qui ont beaucoup d'argent, cette petite couche de la bourgeoisie. Il y a aussi une partie d'une petite bourgeoisie qui ont du coup un travail, peut-être les moyens de s'acheter une petite maison, ça existe. Mais il y a 100 fois plus de gens qui vivent dans la plus grande misère. Il faut savoir aussi qu'une économie comme celle d'une ressource comme une mine d'or, voilà, donc ici c'est les usines de poissons, ça attire beaucoup de jeunes gens de l'arrière-pays. Ça attire beaucoup de jeunes gens en cherchant du travail dans cette nouvelle richesse, ruée vers l'or. Mais ça fait des agglomérations énormes, ça fait des favelas, non, comment on dit,
bidonvilles.
Les bidonvilles. Autour de cette usine, par exemple, et il y a très peu de ces gens qui sont venus de l'arrière-pays qui ont effectivement un travail dans l'usine. Si on parle du darwinisme social, ce sont les plus forts qui partent, qui étaient autrefois paysans, peut-être à 300 km du lac, qui ont quitté leur champ, qui ont quitté d'ailleurs leur femme, leur enfant. Et ces enfants et ces femmes-là, c'est eux qui deviennent très 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 souvent victimes de la famine, soi-disant de la fameuse famine que l'UNICEF doit intervenir, l'ONU doit intervenir finalement, tu vois. Donc c'est l'effet dévastateur est beaucoup plus grand que sur la région.
Sauf que les victimes de cet effet dévastateur ne sont pas comptabilisées, alors que les emplois créés sont comptabilisés. Voilà. Il y a dans l'argumentaire de Monsieur Garçon quelque chose qui fait presque sourire, si c'était pas aussi terrible, c'est le recours aux chiffres. Tous ceux qui ont un tout petit peu voyagé, fait des reportages dans le vaste monde, savent à quel point les trois quarts du monde, pour pas dire les deux tiers du monde, sont dépourvus de chiffres. Ouais. On rappelle que, concernant le Rwanda, par exemple, depuis 1994, on estime toujours le nombre de victimes entre 500 000 et 1 million. On sait toujours pas à 500 000 près, quoi. Pour les Rwandais, on n'est pas à 500 000 près. Mmh. Et puis on sait chez nous, par exemple, alors là, pourtant c'est précis, on est un pays de chiffres, on n'est toujours pas d'accord sur les chiffres du chômage, par exemple en France, qui sont des chiffres extrêmement importants, qui définissent des politiques, qui définissent des opinions. Mmh. Donc, se fier aux chiffres, se fier à la magie des chiffres, finalement, c'est une approche beaucoup plus poétique, au sens irrationnel, que la vôtre, finalement. C'est-à-dire, ça relève de la sorcellerie que de se référer aux chiffres.
C'est un cimetière,
alors que vous,
chiffres, ouais.
vous êtes sur le terrain avec vos pieds par terre et vous regardez les gens, vous parlez avec les gens et vous montrez les gens.
Yeah, you know.
Oui, vous savez.
I have two flights from the Europe to Angola.
J'ai fait deux vols d'Europe vers l'Angola. Avec
big machine and
des grosses machines.
I don't know.
C'est pas
like comme tanks. Des,
comme des chars.
This.
Ça.
And I bring it to the Angola.
Je l'ai transporté en Angola.
And my company, I think.
Et ma compagnie a reçu de l'argent pour avoir fait ça.
And after that,
et après ça,
Johannesburg,
je suis allé à Johannesburg pour prendre du raisin.
Du raisin back to the
pour le retour en Europe.
So, my friend, told to me,
aussi un ami m'a dit
children's of Angola,
des enfants d'Angola
received guns for, Christmas
ont reçu days. Des armes pour Noël.
Europeans, Charles, receives grapes.
Et les enfants européens ont reçu du raisin pour Noël.
It's business.
Ça, c'est le business.
It's little story from me.
Et ça, c'est ma petite histoire.
Hubert Sopper, une autre critique qui vous est faite, c'est celle de la démonstration du trafic d'armes. L'affiche du film, qui est une affiche superbe, est très efficace, il faut le rappeler, représente trois figures. Un poisson, donc une perche du Nil. Deuxièmement, ce poisson, la carcasse seulement de ce poisson. Et troisièmement, ce poisson se transforme en Kalachnikov. Donc on a compris, c'est très efficace, c'est très violent, c'est de la bande dessinée, c'est du dessin, de la caricature politique, c'est très fort. Et on se dit, voilà, on va nous démontrer que le poisson se transforme en Kalachnikov. Et c'est votre argument de départ, c'est ce que vous vouliez démontrer au départ, sauf que... on reste un peu sur sa fin quand même. On n'a pas la démonstration, on n'a pas la preuve que les avions, les fameux avions, ces avions ex-soviétiques qui transportent le poisson vers les pays occidentaux, reviennent véritablement avec des armes. Vous posez, la question est posée régulièrement aux différents protagonistes, aux différents témoins du film, et alors on a des hésitations, on a des silences gênés, des sourires complices, toutes choses difficiles à traduire, mais c'est bien ça votre boulot, c'est tous ces silences et ce qu'il y a entre les mots, mais n'empêche que vous n'apportez pas la démonstration promise par l'affiche du film.
Ben, vous avez tout dit, je pense que si j'étais journaliste d'investigation, si je cherchais à prouver le commerce d'armes, qui est un fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vers l'Afrique, j'irais pas demander des putes dans un café leur avis ou les enfants dans la rue. Hein. Je demande les gens justement pour sonder un peu l'état de conscience d'une prostituée qui couche tous les soirs avec des aviateurs. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce qu'il fait ce monsieur-là? Vous parliez de l'affiche, c'est l'affiche effectivement efficace, mais l'affiche, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est le distributeur français qui l'a fait pendant que j'étais à l'étranger, parce que le film est sorti dans tellement de pays, et dans chaque pays, l'affiche est différente, et ça c'est juste l'affiche française. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'on voit une Kalachnikov sur l'affiche, mais on la voit pas dans le film. C'est clair que pour une lecture simpliste, ça peut être un peu frustrant, hein, ça peut gêner, mais ma démonstration, bon, ma démarche, c'est pas la preuve. Je prouve pas que l'Afrique est mourante d'ici là. Je prouve pas que l'Afrique est atteinte des famines extrêmes. Et pourtant, j'en parle dans le film. Vous savez, il y a aussi Claude Lanzmann. Dans son film, si on demandait, est-ce que tu fais un film sur la Shoah, mais t'as jamais montré des cadavres à Auschwitz, alors comment tu prouvais ça? Ça fait rire tout le monde, quoi. C'est pas son rôle.
Effectivement, c'est là que la polémique est passionnante, parce que c'est toute la question de la représentation de la réalité. C'est une très très vieille histoire. Ouais. Cette polémique est très très ancienne. Comment représenter la réalité? Ben, ça commence par savoir qu'est-ce que c'est que la réalité? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire? Avec les critiques qui vous ont été faites, on démolit les reportages d'Albert Londres, par exemple. Ouais. Hein, parce que là, Albert Londres, il travaillait comme vous, et comme beaucoup de reporters, de journalistes et d'enquêteurs, il travaille avec des renseignements, en s'appuyant sur les travaux de scientifiques, de spécialistes, d'experts divers et variés, mais ensuite, il y va physiquement, il devient un témoin physique de situations. Je pense ces voyages en Afrique ou en Guyane, etc., où il exprime les choses physiquement telles qu'il les a ressenties, et après, effectivement, soit en cours de route, soit revenu à Paris, ben il met tout ça en scène. Enfin, il met les choses, il construit les choses. Il y a une illusion de l'objectivité qui est en fait une forme de censure. Hein. Bourdieu disait que l'objectivité c'était une forme de censure, et on arrive finalement c'est une polémique passionnante. Très intéressante sur la façon dont les choses peuvent être représentées, pas seulement dans le documentaire filmé Jean-Luc Porquet.
Non, mais en même temps, ça montre à quel point on a le regard déformé par les docs, genre le droit de savoir sur TF1, où et voilà, avec la caméra à l'épaule, on va vous montrer la preuve que voilà, il y a un vrai trafic et tout. Et donc, on attend ça. Et moi, je trouve que ce qui fait la force du cauchemar de Darwin, c'est que c'est très allusif. On a rien à foutre d'avoir la preuve à l'image de cette réalité, puisque tout le monde sait bien qu'il y a un trafic d'armes là-bas. Même le Monde, dans sa contre-enquête, termine son papier en disant, ben voilà, d'après le meilleur expert de trafic d'armes dans le coin, il reconnaît que ben oui, les avions arrivent chargés d'armes dans la région et repartent avec la perche. Donc c'est basé sur un fait vrai, mais je trouve ça très très fort de montrer ça comme ça, et on n'a vraiment pas besoin d'avoir une soi-disant preuve par l'image.
Alors, François Garçon, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, dites-moi, pour quelle raison vous vous en êtes pris à ce film? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous pencher avec autant de précision et d'acuité sur ce film?
Écoutez, moi j'ai été fasciné par le film parce que je suis un historien des images. Donc c'est un film qui, à l'image des 400 000 spectateurs qui l'ont vu en France, m'a bouleversé. Je trouvais que c'était la façon de décrire la destruction d'un écosystème, le trafic monstrueux de l'échange d'armes de Kalachnikov contre le poisson. M'a amené à dire que c'était un grand film. Puis après, j'ai eu des doutes, j'en ai discuté autour de moi avec un certain nombre de documentaristes, j'ai été revoir le film 2-3 fois, et là, il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses qui passent pas, il y a notamment cette espèce d'insistance sur le questionnement de caractère obsessionnel sur l'importation d'armes, qui est l'argument central du film. Hein. Les pilotes, croyez-vous qu'ils peuvent apporter des Kalachnikovs ou des bombes en Afrique? En Afrique, vous apportez aussi des armes. Or, il n'y a aucune image. Et pourtant, c'est la pièce à charge qui est tout le temps recherchée. Or, pour moi, aussi lointain qu'il n'y a ni aveu ni preuve, la scène n'existe pas. Hubert Sauter n'a rien. Il n'a ni image, ni témoignage oral. Alors, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois célébrer le journalisme d'investigation et s'arrêter lorsque l'on constate qu'il y a un effroyable mensonge pour une cause juste. Peu importe la cause, je veux dire. Dès qu'il y a un mensonge, à mon avis, il était dénoncé, oui.
Vous avez pour titre à votre article « Allégorie ou mystification ». Donc, vous n'acceptez pas que ce film soit une allégorie comme l'auteur le prétend, mais pour vous, c'est bel et bien une mystification.
Mais attendez, une allégorie, il est le seul à croire que c'est une allégorie. Il y a aujourd'hui sur Google et sur Yahoo, il y a 311 000 références au cauchemar de Darwin. D'accord. Tous les gens qui ont vu ce film ne l'ont pas pris pour une allégorie. Ils l'ont pris pour un documentaire, c'est-à-dire un film réalité sur la dénonciation d'un trafic d'armes au bénéfice d'une Europe qui se goinfre de perches. L'affiche est là. Donc, ça n'est pas une allégorie. C'est un film militant, pourquoi pas, mais à ce moment-là, qu'on autorise certaines personnes à interroger la teneur du propos.
Oui. Alors, c'est un film militant, dites-vous, effectivement. L'auteur, dès le début, et partout où il en a l'occasion, indique bien qu'il s'agit d'une critique de la mondialisation libérale. Or, voilà bien quelque chose que vous détestez, aussi bien dans le texte que vous avez donné au temps moderne, dans les différentes déclarations que vous avez faites, vous avez bien exprimé haut et fort votre détestation des altermondialistes, les fronts bas altermondialistes, selon des termes que vous avez utilisés dans un papier. Donc là, il y a une position de votre part qui est tout à fait défendable, qui est tout à fait honorable, mais qui est une opinion et qui contredit un petit peu les arguments d'autorité que vous donnez du haut de votre position d'historien, donc de scientifique.
Oui, je pense qu'on est un certain nombre à penser que la mondialisation est nécessaire au développement de certains pays. Encore une fois, vous, Daniel Mermet, vous habitez à Mwanza. Vous soyez sans doute très content, si vous ne travaillez pas à la radio de Mwanza, de travailler chez Du Monde. En tout cas, moi, oui. Parce que je gagnerais $10 alors que le revenu moyen à Mwanza et dans la région est de $1. Donc, la question de pour ou contre la mondialisation n'entre pas, même si j'affiche mes positions, la question d'être pour ou contre la mondialisation ne doit en aucune manière... Le fait que je dénonce un mensonge, que je dénonce des mystifications.
Il y a une position qui est tout à fait honorable, hein, qui est la vôtre, oui. Qui est celle de la défense de l'économie de marché, alors que Sauper se place à l'opposé, dans ce que vous appelez les pauvres cervelles altermondialistes, il se situe simplement dans l'autre camp. Je crois que c'est une affaire qui est très intéressante, mais pourquoi pas aller sur le terrain carrément des idées, plutôt que d'aller chercher des arguments entre la précision documentaire, ce qui relève en général du journalisme d'investigation, et un documentaire qui se présente lui-même comme une allégorie et comme un travail plus poétique sur le sensible que sur le précis, disons.
Oui, Daniel Mermet, je vous entends et je dois vous dire que je me revendique comme dissident minoritaire en France, notamment à propos de la libre entreprise et de l'économie de marché, puisque nous ne sommes que 36% en France à considérer que l'économie de marché, c'est-à-dire une économie ouverte à la mondialisation, constitue un bon système pour l'avenir. Donc effectivement, c'est une position qui est dure à assumer, que cette position de dissident minoritaire, mais je l'assume.
Voilà.
Avec un peu d'ironie. Au revoir.
Merci François Garçon, je renvoie au papier qu'il a publié dans les temps modernes de ce mois-ci, en vente actuellement, à voir donc ce soir à 20h40, Le cauchemar de Darwin de Hubert Sopper, suivi d'un débat avec le réalisateur. Merci aussi à Jean-Luc Porquet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Demain, il y aura un petit bonus et on parlera de George Orwell en commençant l'heure, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron, Thomas Robin, Antoine Chaoya Chouquet ont réalisé cette émission modeste et géniale. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain pour la base si j'y suis à 17h.